Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà sur la route inconnue pour l'avant-dernière de la saison. La route inconnue, c'est, rappelez-vous, l'émission de Radio Rancière entièrement dédiée à la poésie vivante d'expression française et placée sous le haut patronage de la revue de poésie des Charges qui fête cette année ses 40 ans d'existence. Chapeau, monsieur Jacques Morin, alias Jacques Mo, que vous retrouverez tout à l'heure en seconde partie d'émission pour sa revue des revues audio. Vous aurez aussi la joie d'entendre Louis Dubos et Jean-Claude Touzeil. Mais avant cela, permettez que je vous présente notre invité du jour. Loin d'être un inconnu, Yves-Jacques Bouin est ce qu'on appelle une figure de la poésie française contemporaine, car en plus d'être un superbe auteur, il est aussi comédien. Responsable d'une collection, la collection 3,14 grammes de poésie pour la maison d'édition Paysage Intérieur, et il est chroniqueur dans la revue Décharge, où il tient la rubrique des voix venues d'ailleurs. Enfin, Yves-Jacques Bouin a été, entre 2002 et 2011, le responsable du festival Temps de Parole, La Voix des Mots, qui se tenait chaque année à Dijon, ville où il réside, à l'instar d'ailleurs de l'ami Claude Verset, encore un pilier de la revue Décharge. Bonjour Yves-Jacques.
Bonjour.
Quelle énergie, dites-moi. Et je n'ai pas mentionné en plus hein, les disques que vous avez enregistrés et l'émission même radio que vous avez animée sur Radio Enghien il y a une bonne vingtaine d'années. Elle vous vient d'où cette foi dans la poésie?
Oh, alors là, c'est toute une histoire. J'ai tendance à dire avec beaucoup d'humour, c'est mes amis qui m'ont forcé. Qui m'ont forcé à faire du théâtre, qui m'ont forcé à faire de la poésie. En réalité, lorsque j'avais 15-16 ans, j'ai eu une amie, une collègue du lycée qui m'a dit, mais dis donc, tu as l'air d'aimer la poésie, mais j'en savais trop rien, à vrai dire. Et donc, il m'a fait découvrir les premiers poètes et des grands, hein, parmi les grands. Elle m'avait dit, faut que tu lises Elbar, Desnos, Supervielle, et c'était des poètes que je ne connaissais pas. Et donc, je me suis mis à lire la poésie, et là, j'ai découvert ce que pouvait être la poésie. Voilà, c'est venu comme ça. Puis ensuite, en faculté, c'est pareil. J'ai une autre amie qui m'a dit, mais il existe un conservatoire. Tu devrais faire des études de comédie. Donc, je suis entré au conservatoire pour devenir comédien. Comment le parcours s'est fait pour entrer, je dirais, dans le monde artistique. Et puis j'ai passé un concours de poésie au bout un concours de théâtre plutôt, de comédien au bout d'une année, et j'ai eu un premier prix de poésie. C'était très très étonnant, avec Les Amis Inconnus de Jules Supervielle. Voilà. Et donc ça a été pour moi un vrai déclencheur de dire et d'écrire de la poésie. Voilà.
Avant de parler de votre poésie, nous allons, si vous le voulez bien, comme nous le faisons tous les 15 jours sur la route inconnue, remonter le temps pour découvrir l'enfance du poète. Où êtes-vous né? Où avez-vous grandi? Et quel enfant étiez-vous?
Voilà, là, c'est aussi un petit peu... c'est en deux temps, je vais dire. Bon, voilà, je suis né en Touraine. Et à l'âge de 4 ans et demi, je suis parti, parce que mon père était appelé là-bas, je suis parti 5 ans aux Antilles. Ah. Voilà. Et en fait, je ne me sens pas tourangeau, je devrais dire. Je me sens plutôt des pays chauds. Je me sens l'âme assez proche des créoles, de la créolité. Et pourtant, je suis un bon français, si je veux dire. Mais je crois que les quelques années que j'ai vécues en Guadeloupe, m'ont profondément marqué.
C'est quoi la créolité?
Alors pour le coup, j'en ai une définition personnelle, c'est-à-dire que c'est moi les souvenirs que j'ai de la Guadeloupe, c'est-à-dire les amis que j'avais là-bas, l'approche de la mer que j'avais là-bas. J'ai failli y mourir aussi. C'est aussi donc une un souvenir de vie et de mort, d'approche de la mort, en tout cas. Voilà, c'est pour moi c'est ça le monde que j'ai vécu là-bas lorsque j'étais tout petit, hein, c'était entre 4 ans et 9 ans, quoi, à peu près.
Est-ce que la lecture a joué un rôle de premier plan dans la construction de l'enfant que vous étiez? Il y avait des livres à la maison?
Oui, alors, il y avait des livres à la maison qui n'étaient pas du tout des livres de poésie, hein, mais mes parents, mes grands-parents paternels, mes grands-parents maternels avaient beaucoup de livres, avaient un vrai respect de la littérature, ne connaissaient pas la poésie. Mais je pense que c'est par la lecture et ce respect de la littérature que moi-même je suis peu à peu. D'abord j'ai lu des romans, bien sûr, comme tous les enfants, je lisais des romans célèbres, hein, à cette époque-là, en tout cas Le Club des Cinq, Le Clan des Sept.
Ah, Le Clan des Sept, oui.
qui m'ont beaucoup, qui m'ont fait entrer, je dirais, dans la lecture. Et puis, alors, ma première grande lecture, dont je me souviens maintenant, et ma mère n'était pas très très contente que je lise ce livre-là, d'ailleurs, c'était La Guerre des Boutons.
Oh, formidable, oui.
Voilà. Et puis, et ben, peu à peu, je suis arrivé à la poésie, quoi. Voilà.
Vous avez parlé tout à l'heure de la découverte grâce à une amie de la poésie contemporaine, mais si je ne m'abuse, j'ai pris mes renseignements, il y a eu Verlaine que vous lisiez à voix haute chez vous, et votre père qui vous disait « Mais mon Dieu, les sanglots lions des violons, ça ne veut rien dire.
» Oh là, mais vous avez des sacrés renseignements. Oui, absolument. Absolument. Je me souviens de ce moment-là où je récitais, alors pour le coup, je récitais encore le poème à ma mère, et mon père avait entendu ça, et vraiment, alors ça lui était apparu une chose absolument incroyable, sanglots longs du violon. Mais les violons ne pleurent pas, mon garçon. C'était très 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 beau. Ah, oui. J'ai un autre souvenir d'ailleurs qui est assez loin aussi, la première année d'école que j'ai fait à la Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Eh bien, on avait un livre, on avait eu un livre que mes parents avaient dû m'acheter, parce qu'on achetait les livres à ce moment-là, et ce livre était un recueil de poèmes qui s'intitulait « Voici des roses ». Et ce livre-là, eh bien, je l'ai toujours. Ah. Il m'a accompagné jusqu'à maintenant.
Est-ce que vous avez eu très tôt l'intuition que la poésie pouvait être dite à voix haute?
Ah oui, alors ça c'est assez étonnant parce que, en fait, au lycée, on récitait des poèmes dans les cours de français. Et puis, c'est cette amie qui avait peut-être trouvé que je les disais pas si mal que ça, et qui m'a proposé de créer un club de poésie à l'intérieur du lycée, où on inviterait évidemment les jeunes gens comme nous, et puis nos professeurs. Et ça a commencé comme ça. J'ai commencé à lire, voire à apprendre et à dire des poèmes dans un lycée. Et c'est comme ça que peu à peu est venu ce désir et puis ce plaisir ensuite de dire les poèmes à voix haute, quoi.
Alors ça, ce sont les poèmes des autres, les vôtres. Oui. Comment êtes-vous devenu poète?
Je ne les apprends pas. Je ne les apprends pas, je les lis. Je les lis à voix haute, bien sûr. Mais je n'arrive pas à apprendre mes textes et à les dire en public. Ouais. Ça me paraît un petit peu trop, quoi. Je dirais, bon, j'aime pas trop mettre en avant ce que je fais. J'ai fait, par contre, ce qui m'est arrivé de faire, c'est des spectacles avec mes poèmes, mais qui étaient des lectures spectacles, parfois mises en espace, mises en scène, mais sans jamais avoir appris les textes. Ouais.
Alors, d'après les renseignements dont je dispose, vous avez attendu 1989 pour publier votre premier livre, c'est auprès de l'âge. Vous avez mis du temps à publier, mais vous écriviez depuis longtemps.
Oui, absolument. Le premier petit recueil, c'était le Près de l'âge. J'écrivais depuis quelque temps. J'avais publié un texte quelques années encore précédemment aux éditions Contre-Ordre, qui n'existe plus, qui était une très 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 belle revue. Qui a fait, je crois, 7 numéros. Et là, ça a été ma toute première publication. Voilà. Et puis, le premier petit recueil, c'était effectivement aux éditions de Près de l'âge. Voilà, c'était un petit livre blanc, d'ailleurs.
Qui porte puis, un très beau titre, La parole en appel dans le silence des mots.
Tout à fait.
Vous pouvez nous éclairer ce titre ?
C'est compliqué ça.
Parce que j'y vois encore un appel à la voix haute, à la parole.
Oui. Les mots sont silencieux. Hein. Y a rien à faire. C'est-à-dire que lorsqu'on lit un poème, on est effectivement dans le silence. Simplement, ce que je crois, pour moi en tout cas, c'est que lorsque je lis un poème dans ma tête, en fait, je l'entends, je lui donne une ou des tonalités, je lui donne des rythmes, il n'est jamais seulement les mots qui reposent sur le papier, il devient tout autre chose en moi, je dirais, il m'incarne, quoi. Il est à l'intérieur de moi, donc je pense que parole en appel dans le silence des mots, c'est ça aussi. C'est que je pense que les poèmes ne peuvent pas se suffire en restant dans les livres. Ils ont besoin de sortir à l'oral, d'être entendus, de venir à l'oreille des gens.
Oui. Comment la veine poétique, si j'ose dire, trace-t-elle son chemin en vous ? C'est-à-dire, quel chemin le poème emprunte avant d'arriver sur la page blanche ? Ça se passe comment pour vous ?
Oui. Alors ça, c'est pour moi, c'est pas original peut-être, mais je dirais que le poème est vraiment un jaillissement. C'est-à-dire que le bonheur que j'ai à écrire vient de là. C'est-à-dire que si j'ose dire, il se passe rien de spécial dans la vie, d'un seul coup, pouf, il y a une phrase qui naît, ou même un mot d'ailleurs, qui va m'obséder, ou une image éventuellement, ou une sensation, ou une émotion. Et puis, ce sont souvent des petites choses, ce ne sont pas des grands événements. Et d'un seul coup, il faut que je prenne un morceau de papier. J'ai d'ailleurs jamais de carnet sur moi, comme beaucoup de poètes font. Donc il faut que je cherche un bout de papier, quelque chose, et puis un crayon. Et puis, je note immédiatement ce mot, ce petit bout de phrase, ce petit événement qui m'est parvenu et auquel je ne m'attendais pas. C'est-à-dire, c'est vraiment un jaillissement. Et puis, après, ces quelques mots écrits vont pouvoir rester sur le bureau pendant une semaine, 15 jours, plus parfois. Et puis, subitement, à partir de ces quelques mots, un texte va naître. Alors là, commence tout un autre travail qui va être l'écriture du texte, bien sûr, donc ce qu'on appelle le premier jet. Et puis après, toute une réécriture du texte qui peut, d'ailleurs, réécriture qui peut être tout le temps, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'un poème n'est jamais réellement fini, n'est jamais réellement définitif. Et je dirais que, même alors, En général, quand il est publié après, j'ai tendance à ne plus y toucher, mais avec beaucoup de regrets. Ce que je peux effectivement me dire, ah, mais ce poème, j'aurais pu l'écrire différemment, j'aurais peut-être pu ajouter ce mot, ajouter celui-là, ajouter une phrase. Alors parfois, ce qui m'arrive, j'ai un ensemble donc que j'ai proposé d'ailleurs chez un éditeur, qui s'appelle Paris Parole, et que j'ai écrit il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, je crois. Et en relisant ce recueil, il y a beaucoup de retours, souvent les mots reviennent, les sens reviennent, les mêmes phrases peuvent revenir d'un poème à l'autre, une vingtaine de poèmes à peu près. Et j'aime cette espèce de réitération, quoi, comme si on était avec une cuillère en train de mélanger une sauce et on retrouve toujours les mêmes odeurs, les mêmes ingrédients, comme on se promène, on va se promener dans sa rue. Enfin, pour moi, ces poèmes de Paris Parole sont des balades parisiennes, puisque j'ai habité Paris près de 30 ans, et en fait, on passe dans les mêmes rues, on a les mêmes sensations, on a les mêmes images, les mêmes regards, les mêmes rencontres, et cette réitération permet effectivement une écriture de poésie.
Vous êtes un piéton de Paris. Vous étiez un piéton de Paris, puisque vous êtes à Dijon.
Oui. Oui. Je peux pas dire que j'étais un piéton. C'est-à-dire que je vivais à Paris, tout simplement. Et donc, pour le coup, j'allais dans de nombreux quartiers. Et là, j'en profitais pour me promener, pour connaître les quartiers. On n'a jamais fini de rencontrer Paris. Je dirais par contre, ces poèmes ne se sont pas écrits lorsque j'étais à Paris, mais lorsque je suis revenu à Paris habitant Dijon. C'est-à-dire que il y avait un retour et un bonheur de revenir dans la capitale et de retrouver tel ou tel lieu que j'avais connu quelques années précédemment.
Dans une interview qu'on peut entendre sur YouTube, vous dites que la poésie, contrairement au roman par exemple, à part le nouveau roman, précisez-vous, la poésie est le lieu où la langue finalement n'en finit pas de se réinventer. C'est un peu le rôle que vous assignez à la poésie.
Oui, je dirais que c'est la porte ouverte à une vraie recherche d'écriture. Je vois avec le roman, autant que je puisse en juger aujourd'hui, parce que je lis assez peu de romans, mais le roman est revenu à une écriture relativement classique, que je ne méprise pas d'ailleurs, il y a d'excellents romanciers, c'est pas le problème, mais on est à nouveau dans une écriture qu'on connaît. Alors que avec la poésie, même si effectivement il y a beaucoup de poètes qui ne font pas forcément une recherche d'écriture, ce que peut-être mon cas d'ailleurs, il y a malgré tout dans les lectures à chaque fois des découvertes. Je fais des découvertes et des découvertes qui sont aussi bien dans les thèmes de l'écriture que dans la façon d'écrire, que dans le regroupement d'un certain nombre de textes, que dans les titres des recueils parfois. C'est-à-dire qu'il y a toujours une surprise qui est agréable en se disant « Ah oui, mais tiens, ça c'est une belle idée, ça c'est une belle découverte et c'est un plaisir infime en même temps, hein. C'est un plaisir intérieur intense que je ne trouve pas forcément dans un autre type d'écriture.
Ouais. Il nous reste à 2 petites minutes. Je vois quand même, j'aurais souhaité vous interviewer, vous poser des questions sur votre autobiographie, Un Bouin, c'est tout, qui est paru à l'improviste en 2013, mais on n'a pas beaucoup de temps. J'aurais par contre juste 2 mots pour finir sur votre travail de comédien. Vous avez enregistré au moins 2 CD, dont un sur les poèmes de Benjamin Fondane. C'est un travail qui vous tenait à cœur, travailler sur la poésie de Benjamin Fondane.
Oh oui, c'est-à-dire que en fait ça a été créé, c'est un spectacle qui a été créé avec Ève Grilliquez, qui nous a quittés il y a deux ou trois ans je crois, et qui travaillait à la radio et à la télévision, et que j'avais rencontré à un festival de poésie et avec qui j'étais devenu ami. Et on faisait régulièrement des lectures dans un café de la rue de la Roquette. Et puis un jour, elle m'a dit, mais et si on faisait un spectacle sur Benjamin Fondane, que je connaissais, mais que j'avais relativement peu lu, et j'ai lu l'œuvre de Benjamin Fondane, que j'ai trouvé absolument magnifique. Et on a créé un spectacle à Paris, dans un petit théâtre maintenant qui n'existe plus, qui était près du centre Beaubourg, et à la suite de quoi on a créé un CD Benjamin Fondane. Oui. Oui.
Merci, merci beaucoup. Nous allons passer un peu de musique et puis je vous fera découvrir à nos éditeurs, si ce n'est déjà fait d'ailleurs, mais votre poésie avec une lecture d'un livre paru il y a quelques années aux éditions Mazette. Très joli nom, les éditions Mazette.
Oui. Oui.
Qui traduit bien l'étonnement qu'on peut avoir parfois en lisant un poème.
J'aurais pu parler d'ailleurs des noms des éditeurs aussi.
Oui.
Parce que les noms des éditions sont parfois absolument magnifiques. Le recueil dont je parlais, Paris Parole, je les ai envoyés aux éditions. Pourquoi viens-tu si tard? C'est magnifique, je trouve.
Merci, merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt.
D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir questionné sur la poésie.
C'était un plaisir.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Et voici à présent une lecture de quelques textes extraits de ce très beau recueil d'Yves-Jacques Bouin, publié aux éditions Mazette, sous le titre « Une passée de paroles ». En exergue cette petite phrase « Dans le secret des rencontres, il y a des poèmes ». Conduire. Qui nous dira le chemin des mains vers les corps, les appels ? Qui nous montrera le chemin des mains vers les mains, les mains qui se nouent, se défont pour les coups, les caresses, les mains pour donner la mort, les mains pour mettre au monde, et la même douce application, la même attention minutieuse, les mains pour les passions. Qui nous dira l'abandon des mains à l'horizon des adieux, et quand retenir et quand laisser aller les mains qui tiennent dans leurs paumes à chaque seconde les palpitations du monde? Qui nous dira le jour où la main trouve enfin sa place dans une autre, et c'est l'éternité touchée du doigt, et dans le geste de joindre les mains, l'ignorant augmente le silence d'une prière et lâche prise. Traversée intérieure sur les ponts de la mémoire, bousculade des souvenirs qui se dispersent et se rassemblent au gré de la foule des mots recueillis au fil du courant. Traversée. Je vais de ville en ville, étranger à chacune. À ceux que je rencontre, je dis bonjour, comme on dirait bonne route. Je ne m'arrête pas où,
si peu. C'est l'affaire d'un repas, d'un hôtel, de quelques rues flânées derrière le rideau baissé de la pluie ou le regard allumé du soleil. C'est une halte, mais tellement chargée d'inconnus, de sourires, de douceur, qu'elle oblige à s'en aller bientôt. Un passage au rapide comme une caresse ou une gifle, vif comme le saut d'une rive à l'autre, la main tendue. L'instant qui comble par sa brièveté, une manière d'orgasme. C'est de l'amour qui ne retiendra pas, de la versatilité fluide comme aller sur le trottoir d'en face, passer sur un pont, changer de pièce, prendre un verre au comptoir. Une sorte de visite pendant laquelle on reste debout, le manteau seulement déboutonné, avec le désir impossible de rester. C'est de la vie en morceaux, mais qui prend chair dans le fond des souvenirs, de la vie qui ne s'effacera pas précisément parce qu'elle est sans lendemain, de la vie fixée sur le papier sensible de l'imaginaire, de la vie suspendue à mes lèvres, de la vie coupée à temps et que l'on prolonge sur les réseaux du sang. Ce qui m'est donné là est à rendre au centuple, ailleurs. Je vais de ville en ville, lentement les anecdotes de l'errance deviennent les légendes de la solitude. C'est du bonheur précaire pour l'infini qu'il faut savoir saisir dans mes villes. Elles glissent sous mes pas au gré de la peine de chaque jour. C'est de l'amour qui ne reviendra pas. Laisser des traces passées au fil du temps dans la transparence aiguë de l'air. Disparaître. Comme dans la rue passagère, on se retourne sur un bruit dont on ne connaîtra jamais la source, comme on s'enveloppe d'un parfum qui flotte encore ici et se disperse, comme on saisit quelques mots qui s'échappent de la terrasse d'un café et qui ne prendront pour soi aucun sens, comme on profite au passage d'un sourire adressé à quelqu'un qu'on ne voit pas, comme on jette un regard furtif par une fenêtre, surprenant le temps d'une enjambée, un lit défait, un vêtement abandonné sur une chaise, des images chiffonnées, comme on écrase sans y penser un insecte minuscule qui vient se poser sur le bras. J'entre dans l'intimité des petits drames anodins, présent dans les paroles, présent dans les caresses, dans la douceur et la violence des mouvements et des rythmes, et ma vie grande ouverte passe sans retenue. Présence pour passer, présence inaperçue, et la vie continue avec jubilation son point au crochet. Cet irremplaçable bonheur de le dire aujourd'hui passera aussi comme les traces d'un poème oublié trop longtemps sous le soleil et sous la pluie. À l'aube des regards, les ombres de la nuit habillent les rencontres d'une promesse de grand jour. Stationner. L'auto tapit dans le pouls ralenti d'une rue banale, le rare passage des phares brouillés derrière la vitre et le bruit des moteurs qui s'enlisent dans le silence, l'haleine qui livre ses secrets, protégée par le cocon humide de la buée fine comme le tulle des pensées, le halo des paroles à l'heure où la nuit s'emmitoufle dans la fourrure de l'aube, le goût furtif des lèvres quand les paroles s'approchent de si près qu'on les touche, et la manne des mains du début à la fin, la conversation qui frissonne par manque de sommeil et qu'on prolonge jusqu'aux rondeurs bleues-grises du matin et qui n'en finirait pas, les sourires blêmes tirés de la fatigue et de l'amour qu'on tait, l'éclat sombre des yeux agrandis dans leur creux comme un kohol posé sur les dernières confidences, les rendez-vous carrés dans la touffeur d'une auto perdue dans la marée nocturne de la vie, les rendez-vous quand tout arrive, les rendez-vous alors que tout se quitte, les rendez-vous qui se fixent à la fois dans la mémoire, l'oubli et l'embellie d'un poème, la douleur qui gîte dans l'appel des regards, les heures fugitives passées à se regagner, à se perdre, des lueurs à peine écloses, tout cela que l'on s'est tapis dans le pour ralenti d'une rue banale, les jours de promesse extérieure nuit. Le bonheur est fait pour être mis, même si parfois la tête a du mal à passer. Rencontrer. L'étonnement de se retrouver face à face. Depuis si longtemps, des images anciennes flottent déjà dans la mémoire. Des souvenirs joyeux sont dénichés, des noms se prennent dans les paroles et les allument. « Et toi, où en es-tu ?» Se reconnaître l'un l'autre debout au milieu de la rue et des allées et venues et du temps perdu à n'en pas croire le poids. Et l'on voudrait, d'un coup, ôter la taie des années sans nouvelles, mais il y a tant de blanc entre les phrases. Et toi, où en es-tu ? Puis à parler des choses importantes sans prononcer les mots, cette confidence tombe à voix basse dans le vacarme de la ville, le regard tellement à l'intérieur. Tu vois, moi, je ne suis pas heureux. Ces mots du silence tournent souvent dans ma tête. Enfance, amour, solitude, bonheur, ignorance, douleur à venir. Ces mots blanchis dont on n'usera jamais la corde, qui continuent à vibrer, et tant d'autres encore, qui ne passent pas le cœur sans laisser des traces et que l'on tait par pudeur ou par peur d'en dire trop. Un jour, ce constat simple d'un ami lointain qui brille au fond comme une offrande, tu vois, et puis se perdre à nouveau dans la foule des années suivantes. S'approcher n'a pas de fin à l'horizon de l'être. Approcher. Une rencontre à la table d'un matin gris, devant un café noir et nu dans la tasse, un regard encore ombré par la nuit, et sans phare, des heures qui filent entre les mots risqués pour se connaître, les coqs à l'âne de la conversation dont les ponts s'effondrent dans la mémoire, le souvenir des phrases qui s'effacent déjà à leur propre passage. Mais ce mouvement familier du bras qu'on surprend sans rien dire, cet éclat du regard puisé au plus profond, cette parole différente parce qu'on l'espérait, ce sourire qui dit oui simplement, mais garde ses secrets, l'effleurement des haleines au fil des confidences, voilà ce qui trame le charme d'un matin quand le soleil tardif se décide enfin à percer comme s'il fixait l'heure de l'aube à midi. Voilà ce qu'on retient, ce qu'il faut de parole pour que la lumière vienne. Dans la rue maintenant, on égrène, pas à pas, ce qu'il reste de temps à comprendre ensemble, jusqu'au dernier geste du rendez-vous, quand la main et les yeux n'en finissent plus de se nouer au silence et semblent souffler tout bas, patience, pour ne pas oublier qu'il reste toujours une vérité à éclaircir et qu'il faudra bien se revoir. La lumière se glisse dans les rêves par effraction pour y découvrir les cachettes idéales de l'enfance. Pénétrer. Tu pousses doucement la porte qui ferme mal. Dans la chambre, toucher des yeux. Chaque chose te révèle un secret que ne caresse plus une main d'enfant. Les couleurs, les odeurs, les objets rangés en désordre attendent d'être un peu plus abandonnés. Chacun est encore le veilleur d'un souvenir et le guetteur d'un rêve. Un rire et un sanglot peuvent s'en échapper. En eux s'enlacent les courbes qui séparent l'enfant de la femme. Elle est absente, au seuil d'une autre vie. Un bruit te surprend, qui vient du fond de toi dénouer ta rêverie. Voleur comblé, tu repousses doucement la porte qui ferme mal. Cette volupté te quitte d'avoir été deux seuls. Chambre de 15 ans. Jeune fille surprise dans le silence, saisie à la dérobée et qui court dans le cœur battant d'un poème, tu portes le secret du monde. Quand la voix s'unit au silence, c'est qu'un poème commence dont le chant touchera les deux rives mouvantes du rêve et du réel. Et ce dernier texte pour finir, franchir. Quelquefois, seules les voix font l'amour. À l'autre bout du fil de la conversation, nous prenons le plus long chemin, le plus malin plaisir du plus long chemin des paroles pour dire des choses simples. Et ce n'est plus seulement le sens qui fait mouche, mais le grain de la gorge qui s'immisce dans le sillon des phrases, leur forme pleine, leur souplesse déliée. Douce harmonie des notes qui sonnent au creux des syllabes comme autant d'aveux sans que rien ne soit dit. Nous nous frôlons de la voix, caresse qui comble la distance et le désir. À l'autre bout du fil de la conversation, qu'un répit, une hésitation, un souffle, prolonge, pont des voix qui s'élance au-dessus du silence et étreint la distance et traverse les êtres. L'oreille s'enroule au sourire qui se dessine entre les lignes et ourle l'attente des mots. Sur les lèvres, tous les rêves se confondent. Ici est déjà tellement sur l'autre rive, dans le toucher des voix. Le geste qui révèle, quand l'amour se devine, multiplie les secrets. Une parole, un regard, la lèvre ou la lumière, soudain passe aux aveux. L'instant se rend au Dieu. La mort attend son heure, la vie fait ce qu'elle veut, la fête entre les deux. Ce qu'on peut de bonheur, tout demeure mystérieux. Voilà quelques extraits de ce livre magnifique de Yves Jacques Boin. Une passée de parole. Pour moi, c'est vraiment un sacré coup de cœur. C'est aux éditions Mazette. Et eh bien, je pense que vous pouvez tout simplement vous le procurer chez votre libraire ou, si ce n'est pas le cas, allez faire un tour sur le site www.éditions-mazette.fr www.éditions-mazette.fr. Ah, qu'est-ce que c'est beau ce clair de lune de Debussy, j'ai un peu honte de l'écourter malheureusement, c'est ainsi, nous n'avons qu'une heure à passer ensemble sur la route inconnue et le moment est venu de rejoindre notre ami Jacques Morin pour sa revue des revues audio.
Revue du mois audio numéro 52, Poésie première numéro 79. C'est Martine Morillon-Caro, la directrice littéraire qui se charge de l'édito titré « L'inspiration ?» point d'interrogation. Il est vrai que ce thème nimbe un peu toutes les contributions de la livraison que MMC reprend habilement en compte dans sa présentation. Un double hommage est rendu à Philippe Jacotet par ses principaux collaborateurs, à savoir Gérard Mottet, pour lequel la maxime « chercher la justesse » concernait aussi bien la vie du poète que sa poésie, et Bernard Fournier qui indique qu'il est un poète que la discrétion mène à la grandeur. Gérard Mottet revient ensuite en profondeur à la thématique du numéro, à savoir l'inspiration, et recale de la même façon intuition et émotion en tant que déclencheur, et tend à cerner plus subtilement ce qui constitue la création poétique. Cet aphorisme de René Char pour suivre. Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Colette Gibelin rebondit ensuite sur l'article précédent, inspiré, transformé, expiré. Ensuite, le dossier du numéro concerne Anne Munich. Elle s'est occupée de deux revues temporelles. Peut-être. C'est une spécialiste de Claude Vigée qui s'est éteint en 2020 dans sa 100e année. Et pour elle, l'œuvre poétique doit être accompagnée artistiquement. Une citation, Creuser dans chaque mot, c'est résister. Et un superbe texte que je recommande, page 42-43. Alain Duhaut poursuit son parcours de livres extraits de son armoire des préférés, avec Colette Thomas, La foudre d'Artaud, André Velter, Le fol de Chantal, Jacques Reda et Jean Rista. Quatre lectures et connivences qu'il défend avec passion. Bernard Fournier donne une lecture approfondie du livre de Michel Diaz, Le verger abandonné. Puis c'est Martine Morillon-Caro qui explore toutes les inquiétudes dans la cérémonie d'Alain Duhaut. Se remet-on jamais d'être né ? Alice Catherine Carles propose un article sur Marie-Lou Awakta, poète et essayiste appalachienne d'origine cherokee et écossaise, qui vint en France de 1964 à 1967. Doana Ioanid donne un texte sur les portes, traduit du roumain par Yann H. Miskin. Jacqueline Persigny s'entretient avec Patrick Jokel à propos de sa revue Cairns, en direction de la jeunesse, ce qui est assez rare. Isabelle Lelouch rencontre une pièce de théâtre jouée à la colline, Mes frères, texte barbare, poétique et épique, dit-elle. C'est Claire Kuneben qui donne la nouvelle du numéro, Bottine. Enfin, avant la partie critique avec pas moins de 8 rédacteurs, c'est la partie ouverte Poésie plurielle avec Jean-Claude Albert Coiffard. On entend la comptoise prendre le pouls du temps, Myriam O, François Coudray, Franck Buissou, Béatrice Paillet et Jennifer Grousselas avec son poème qui interpelle à vif. 16 euros. Abonnement 3 numéros, 40 euros par an. Chez Claire Garnier-Tardieu, 2 rue Varangue, 92 340 Bourg-la-Reine. Voilà. À la prochaine fois.
C'était Jacques Morin, directeur de publication de la revue Des Charges, que vous retrouverez bien évidemment à la rentrée. Vous le retrouvez d'ailleurs doublement parce que je souhaite absolument l'interviewer à propos des 40 ans du 40e anniversaire de cette revue mythique, la revue Des Charges. À présent, je vous propose de rejoindre notre ami Louis Dubot, poète, lui aussi l'un des piliers désormais de la revue Des Charges et ancien éditeur à l'enseigne du Des Bleus, qui, je ne vous apprends rien, fut l'une des maisons d'édition importantes de la seconde moitié du XXe siècle en France. Voilà, Louis Dubot, sans plus tarder.
Poète et compagnie. Jules Renard, qui savait si bien cibler les travers de la nature humaine et les cingler d'une sentence ironique et sans appel, disait que le sot est quelqu'un qui a toujours le mot pour faire rire de lui. En digne héritier, Éric de Jaeger, un écrivain et poète belge, en plus de ceux de Jules Renard, on perçoit dans son ascendance des gènes de Magritte, Verhaeghen, Gay-Luc et quelques autres de belle humeur et de bon humour qui ont rendu incontournables les arts et les lettres francophones outre-Quiévrain. De Jaeger, donc, vient de faire paraître un mince opuscule intitulé « Le violon pisse de rechef sur son poète ». De rechef parce qu'il y a déjà eu un tome 1 de même titre et de même type, et poète avec un W entre le O et le E, une façon d'établir une distinction entre le faiseur et le poète, comme le soulignait jadis le linguiste Étiamble, qui s'appuyait sur l'étymologie grecque de « poiesis », signifiant « l'art de faire, de fabriquer ». Poète-faiseur et poète fabriquent donc l'un et l'autre des objets avec des mots, le premier les considérant comme un moyen de mettre en avant un ego qu'il se complaît à trouver talentueux, le second s'effaçant devant le poème, existant dans l'évidence de sa propre fin. Bien trop souvent, l'attitude du faiseur confine à la bonne grosse sottise, pour ne pas dire connerie. Le faiseur, c'est le poète que De Jaeger prend pour cible dans son désopilant opuscule. En effet, comme le rappelait naguère Antoine Emmaz, un poète n'a pas à convaincre si le poème n'a pas convaincu. Le poète laisse agir le poème, cela suffit. Le drame du poète, c'est que ce qu'il croit être un poème n'en est pas un, qu'il lui faut donc enfiler une défroque supposée poétique et porter un masque, persona en grec, c'est-à-dire jouer un personnage pour tenter de séduire et persuader autour de lui. De Jäger, comme s'il revisitait à sa manière les caractères de la Bruyère, prend un malin plaisir à démasquer l'usurpateur à coups d'aphorismes, sentences, invectives textuelles qui déclenchent le rire aux dépens du précieux ridicule. En voici quelques extraits choisis en fonction de thèmes et attitudes récurrents que l'on rencontre dans les lieux, en particulier Place Saint-Sulpice à Paris au marché de la poésie, où se montrent très volontiers les poètes, une espèce en voie de multiplication, hélas. Dans la basse-cour aux poètes, le dindon se prend pour un cygne. Le poète ne se creuse jamais la tête, seulement le nombril. Le poète s'y connaît en harcèlement textuel. Au marché de la poésie, le poète fait le poids. Il a 25 tapisseries de son dernier recueil dans le sac à dos. Le poète n'est pas un continent, il marque son territoire. En quittant le marché de la poésie, le poète se sent léger. Il n'a plus que 22 tapisseries dans son sac à dos. Et le poète fréquente également d'autres lieux où il est recommandé de paraître. Une fois terminé l'atelier d'écriture animé par un poète, tous les participants peuvent écrire de la poésie. Le poète ne peut habiter qu'une maison de la poésie, même insalubre. Le poète a généralement remporté quelques concours, prix, médailles ou diplômes, lors de joutes poétiques dont personne n'a entendu parler. Enfin, force est de constater une parité quasi parfaite entre poète et poétesse, qui accomplit la prédiction d'une féministe incontestable, Françoise Giroux, quand elle déclarait que « les femmes seront les égales des hommes lorsque, dans la même fonction, elles se montreront aussi nulles qu'eux. La fonction poétique est à l'avant-garde, pour une fois. » Bref, poète et poétesse, même zéba, affligeant et insupportable. Et la conclusion restera à Éric de Jäger. Les poètes et les poétesses ne m'aiment pas. Je suis quasiment certain que c'est réciproque. Je partage la réciprocité et je m'en vais de ce pas lire quelques poèmes.
Éric de Jäger, retenez bien ce nom. Et nous allons terminer aujourd'hui avec notre ami Jean-Claude Touzeist, à lui d'éteindre la lumière en partant. Jean-Claude qui nous revient lui aussi avec un coup de cœur, une poète qui nous est chère, Nicole Laurent-Catrice. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Grand Ciel. On se retrouve dans 15 jours pour la dernière route inconnue de la saison. Allez, je vous embrasse comme du bon pain. Jean-Claude Touzeil.
Alors, bonjour tout le monde. On se retrouve donc avec Nicole Laurent-Catrice, qui est une poète de Bretagne, qui est née dans le nord de la France, mais qui vit en Bretagne depuis longtemps. Elle a beaucoup écrit et a fait aussi des travaux de traduction, surtout des œuvres en espagnol, parce qu'elle fut aussi enseignante en espagnol. Elle a animé des émissions de radio, elle a été chargée de responsabilité au tombée de la nuit à Rennes. Et elle a aussi une grande audience puisqu'elle a été invitée dans plusieurs pays d'Amérique du Sud pour lire ses poèmes. Plus modestement, elle est aussi fidèle du Printemps de Durtay. Voilà, alors elle a beaucoup écrit. Vous regardez, je pense, le site Printemps des Poètes, vous aurez une idée de sa production. Un salut particulier pour son essai sur Angèle Vanier, qui est une poète de Bretagne qu'elle a rencontré. Voilà, alors j'ai choisi des poèmes surtout dans un livre qui parle des arbres qui s'intitule un front de feuilles paru à la part commune, un éditeur de Rennes lui aussi. Alors c'est parti. Pain des Landes. Entaillé. Entaillé plus haut. Encore plus haut. Tout le flanc jusqu'au cœur qui s'est vidé. Larme jaune. Dure. Et pourtant, tu as résisté, vieux pain. Chêne tétard. Arbre. Dans ton creux bourgeonnant se gercent mes désirs gonflés de sève. Mais ta fibre noueuse, pierre durcie dans ma gorge, étouffe jusqu'au sang les frêles joies jaillissantes. Arbre comme un cri jeté au ciel déteint d'hiver, tous les sanglots d'hier se tordent par tes branches, et j'ai froid jusqu'à l'âme. Qui accompagne l'arbre seul au bord du chemin? Les insectes qui sont sa chanson ou les oiseaux son battement de cœur? Qui accompagne l'arbre solitaire? Le cycliste qui passe en sifflotant. Voilà, ces poèmes étaient extraits de Un front de feuilles. Du même livre, le dernier pour aujourd'hui, ça s'intitule « Nuages ». Il court, il court. Chariot de foin, chou crémeux, gorge d'effraie, chercheur de feu, chaste fumée. Il court, chevaux échappés de quelque lointain horizon, une s'échevelle, écharpe et filochée, qui glisse dansantes et grises, comme des crinières courroucées. Ils courent, et bientôt disparaissent, là-bas, derrière les arbres, derrière les berges, derrière les rêves. Voilà, puis pour en terminer avec Nicole Laurent-Catrice, un poème qui était paru dans la revue des charges numéro 190, pour un changement de date. Une année s'est envolée au vent comme un duvet. Une autre année vient d'arriver. Y aura-t-il encore des oiseaux? Y aura-t-il des coquelicots? Et pour ne pas changer, je vais vous lire un poème extrait de mes Peuples d'arbres. Édition donnée à voir. Cela s'intitule Usager. Il n'y aura qu'un écureuil endormi à la fourche quand je prendrai le peuplier de 7h38 pour aller au bureau. Peut-être aussi une vieille chouette un peu triste qui me bousculera en sortant de son trou. Mais quand je reviendrai par le séquoia de 18h et des brindilles, il sera rempli d'étourneaux, bavards et vibrionnants. Voilà, je vous dis bonne semaine et même bonnes vacances, puisqu'on se retrouvera plus tard. Au revoir.